Bien. Alors, merci beaucoup de cette invitation. Je suis évidemment heureuse d'être ici. Mais pardonnez-moi de commencer par une grande banalité. Et cette banalité, c'est ceci. En préparant cette intervention, j'ai découvert que la littérature sur les femmes juges, ou les juges femmes, je ne sais pas ce qu'il faut dire, est très impressionnante en quantité et en qualité, et aussi en langue française, ce qu'on ne pensait pas trop. Et à cet égard-là, je voudrais vraiment remercier Marie-Claire Bellot, Anne Boisjol, Pascal Vielle, qui ont quand même produit des documents et des textes extrêmement intéressants dans ce domaine. Donc moi, ça m'a fait un très grand plaisir de pouvoir réfléchir sur cette question entourée de regards aussi éclairés. Alors, je vais commencer par une petite citation. Je cite, « Nous ne sommes plus comme nos aînés des combattantes. En gros, nous avons gagné la partie. » Alors ce n'est certainement pas ce constat optimiste, n'est certainement pas celui d'une femme de 2013. C'est celui de Simone de Beauvoir en 1946, cette funeste année où j'ai appris hier que le procureur général des Louettes avait effectivement prononcé cette mercuriale qui est sinistre. Et je dirais à partir de là, il y a deux réflexions pour moi qui s'en dégagent. Bien sûr, les femmes ont acquis des droits et des libertés qui étaient impensables autrefois. Mais elles l'ont fait dans une société qui reste structurellement masculine, tant au niveau national qu'international ou mondial. Et là, je me réfère à un excellent article de Susanna Baer, je ne sais pas comment je prononce mal votre nom, pardonnez-moi, qui va faire les conclusions tout à l'heure, et je n'ai pas de belles images à mettre sur l'écran, pardonnez-moi. Mais ça, c'est une image qui est vraiment extraordinaire. C'est le Conseil européen de Nice, qui, en 2000, a proclamé solennellement la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et alors, cette photo que vous avez trouvée, je la trouve extraordinaire. On voit un groupe qu'on part à peu près d'une trentaine de messieurs, très chic, bien sûr, et seulement deux femmes à l'intérieur. Deux femmes participent à cette affaire-là. Alors, il faut dire que s'agissant des droits fondamentaux et de la Charte des droits fondamentaux, je dirais ceci, c'est véritablement la signature. Voilà où on en est. C'est une situation qui reste structurellement masculine. L'égalité réelle, et je crois que ça c'est vous qui le dites dans votre ouvrage, et je suis tout à fait d'accord avec ça, l'égalité réelle est encore très largement un mythe. Et je pense qu'on est loin de cette idée d'une restructuration fondamentale des rapports entre les hommes et les femmes qui pourrait nous engager tous dans la redéfinition d'un monde commun. Je crois qu'on en est encore vraiment loin. Et puis la seconde suggestion, et vous l'avez reprise en fin de votre intervention, si on se met dans une perspective historique, on se rend compte que les acquis sont toujours fragiles. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les acquis sont toujours fragiles et les risques de régression ne manquent pas. Je dirais, c'est comme les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, ils sont toujours à construire. Ils sont toujours à construire au plus près et au plus juste. Il n'y a pas de grand soir en matière de droits fondamentaux. Et je dirais, c'est la même chose pour cette construction d'un monde commun. Ça implique un long travail permanent, constant, de vigilance individuelle et collective. Et alors, je cite, mais en français, « Contrairement à une idée reçue, l'avancement des femmes n'est pas naturel, inévitable ou irréversible. » Et ça, je trouve qu'on doit vraiment l'avoir en tête. Alors, dans ma toute petite intervention, je vais aborder deux questions qui sont soulevées dans l'excellent texte qui soutient la problématique de ce colloque. D'une part, la question de la représentativité et de la légitimité, et puis la question impartialité-neutralité. Alors, je ne le ferai pas du tout comme une spécialiste, parce que je ne suis absolument pas une spécialiste de ceci. Je ne suis pas du tout une experte, pas du tout. Je vais le faire simplement au départ de la petite expérience qui a été la mienne. Et c'est pour ça qu'en fin de parcours, je terminerai par quelques considérations personnelles, donc tout à fait subjectives, sur, je dirais, ce que j'ai pu constater de temps en temps et même souvent à la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que c'est une different voice? Non, mais c'est une different place, ça certainement. Alors voilà d'abord représentativité et légitimité. Est-ce que la présence des femmes est une condition de légitimité des juridictions internationales et notamment de la Cour européenne des droits de l'homme? Alors peut-être que j'ai rien compris, peut-être que j'ai pas compris ou que j'ai mal compris la question, mais j'ai envie de dire, formulée de cette manière, non, nous ne sommes pas là pour légitimer et justifier quoi que ce soit. On n'est pas là pour rendre acceptable ce qui autrement ne le serait pas. Dans cette question formulée comme ça, pour moi, il y a un petit parfum d'instrumentalisation qui me gêne. les femmes sont présentes à la Cour européenne des droits de l'homme, simplement, tout simplement, parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'elles n'y soient pas. Et ma collègue Elisabeth Fourat disait ceci, cela coule de source. Alors je pense que ce n'est pas la question de savoir si la présence des femmes est une condition de légitimité. Moi, je dirais en revanche, l'absence des femmes pose alors évidemment une question cruciale en termes de légitimité. Alors évidemment, de manière générale, la légitimité des juridictions internationales est une question qui doit être posée, mais je suis incapable de la poser jusqu'au bout, parce que le débat, évidemment, est un débat qui ne sera jamais véritablement apaisé. Maintenant, puisque le thème ici, c'est dans les juridictions internationales, ça vous le savez et on l'a entendu hier, ces juridictions internationales sont très différentes, ont des champs de compétences très différents, ont des pratiques différentes et surtout des juridictions différentes. Donc pour moi, c'est quasiment impossible de synthétiser tout cela. En revanche, je pense que s'agissant des juridictions internationales, les interrogations porte plus sur la légitimité des décisions prises, et ça je le vois certainement en ce qui concerne la Cour, et qui alors va se répercuter sur la légitimité des juridictions internationales, ces juridictions étrangères, externes, dont elles émanent. S'agissant de la Cour européenne des droits de l'homme, je ne vais pas revenir là-dessus parce que tout le monde le connaît, mais la justification ou la légitimité de la Cour, c'est la volonté exprimée par les États en 1950, lorsqu'ils ont adopté la Convention des droits de l'homme. Et il y a eu cette idée assez géniale, il faut le reconnaître, en 1950, qui était de dire, pour que ces droits de la Convention soient porteurs de sens dans la vie des personnes et des collectivités, ils doivent être traduits en action. Ça, c'est pour moi le génie de la Convention des droits de l'homme, et c'est pour ce qui a affirmé que la reconnaissance des droits était inséparable des mécanismes qui doivent assurer leur mise en œuvre. Et c'est l'intuition des pères fondateurs, et tant mieux, merci les pères fondateurs. Mais dès le départ, ils ont affirmé que ces deux dimensions devaient aller de pair, affirmer les droits de l'homme, en assurer la mise en œuvre judiciaire. Donc les États, dès 1950, ont consenti eux-mêmes à se soumettre à l'autorité de la Cour. Mais évidemment, en 1950, les pères fondateurs n'ont jamais pensé qu'à la Cour européenne des droits de l'homme, il y allait avoir des femmes, il y allait avoir des jeunes femmes, des femmes plus âgées, et qu'aujourd'hui, on arrive à un nombre très important. Une toute petite parenthèse à cet endroit-là par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, il y a maintenant des femmes, et je le dirai dans un moment, il y a un nombre important. Il y a des femmes plus jeunes, et il y a notamment des femmes qui sont enceintes, ça arrive, des femmes juges qui étaient enceintes. Et alors là, il y a eu un mouvement, un moment qui, je trouve, est vraiment surréaliste, lorsque elle explique au président de la Cour qu'elle est enceinte, comme vous dites, félicitations. Qu'allons-nous faire maintenant? Ah oui, ça, c'est pas prévu dans le règlement. Tiens, ce n'est pas prévu dans aucune des dispositions au Conseil de l'Europe. Alors le président de la Cour, bonhomme, dit « Écoutez, moi je ne vois qu'une solution, on va dire que vous êtes malade. » Et donc, plutôt que d'organiser au sein des institutions du Conseil de l'Europe un règlement ou des dispositions pour les femmes enceintes, non, il avait, j'allais dire, la naïveté ou la stupidité de dire « On va mettre ça sous une maladie ». Évidemment, les choses n'ont pas été comme ça. Le règlement a été modifié et alors, il y a eu maintenant des dispositions très étendues sur les femmes juges enceintes, non seulement si elles ont un enfant, des jumeaux, des triplés, tout est prévu. Donc, s'agissant alors de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est sûr que les pères fondateurs n'avaient pas pensé ça. Et moi, je me demande maintenant, mais je dirais, je n'engage que moi en disant ça. Il y a un peu une face cachée à la question de la légitimité au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Les décisions que la Cour prenne, ou les décisions qui sont prises par la Cour, sont obligatoires. Elles sont obligatoires pour l'État en cause, elle lie l'État. Elle lie l'État, et même aussi pour les autres États parties. D'où évidemment un sentiment, parfois intolérable pour certains, que les jugements de la Cour européenne des droits de l'homme empiètent sur les juridictions internes, surtout les juridictions supérieures, par ces juges étrangers, et notamment des femmes. Alors, bien sûr, le préjudice se dit que ce sont des juges étrangers qui vont prendre maintenant des décisions par rapport à nos cours suprêmes. Mais le fait qu'effectivement, dans la Cour aujourd'hui, il y a un nombre plus important de femmes, ça commence tout doucement, effectivement, à intervenir aussi. Évidemment, tout ça se met sous le terme peu glorieux ou trop glorieux de la souveraineté nationale. Cela étant, je ne suis pas tout à fait convaincue, mais comme je vous dis, je ne suis pas une experte, donc vous devrez peut-être me dire que j'ai tort. Je ne suis pas tout à fait convaincue que la Cour des droits de l'homme, qui est un tribunal supranational composé de 47 juges, qui participent aux 47 États membres qui ont adhéré à la Convention des droits de l'homme, je ne suis pas tout à fait persuadée que la Cour doit répondre ou être construite sur le critère de la représentation ou de la représentativité au sens politique du terme, ou bien à ce double sens que la Cour doit être, comme disent les anglophones, « standing for » ou « acting for ». Alors ça, je comprends que ça peut poser un problème d'indépendance. Un juge doit être libre, absolument libre de tout. Mais en revanche, et ça c'est pour moi entièrement différent, nos jugements doivent refléter la richesse d'une société diverse, en termes de sexe, en termes de culture, en termes de langue, en termes de religion. Donc oui, les femmes doivent être présentes à la Cour européenne des droits de l'homme. Elles doivent être présentes. Alors est-ce qu'elles le sont ? Bien, on va dire un petit moment là-dessus. Est-ce que le mouvement est terminé ? Non. Quels sont les arguments ? C'est les trois points que je vais prendre maintenant. Oui, au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la seule Cour dont j'ai l'expérience, donc je peux difficilement parler d'autre chose. Au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a au niveau politique, puisque les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire, il y avait, dès 2004, une recommandation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui disait qu'elle n'allait plus jamais considérer des listes unisexes de candidats à la Cour. Parce que pour être élu à la Cour, il faut que les États présentent des listes de trois candidats. Et dès 2004, déjà en 1998, mais surtout en 2004, l'Assemblée a dit qu'on ne va plus examiner des listes où il n'y a pas au moins une femme. Est-ce qu'on appelle ça des quotas ? Je ne sais pas, ça c'est un peu à vous à me le dire. Mais ce que je vois, c'est que le résultat est là. Alors qu'en 1998, il y avait une femme à la Cour, on est arrivé à 8 en 98, disons, parlons belge, allons-y. Et aujourd'hui, il y en a 17. Donc évidemment, il y a eu une progression qui est quand même assez remarquable. Il y a une progression assez remarquable, ça fait 38%. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tous les problèmes sont réglés ? J'ai envie de dire, loin de là, ou plus fondamentalement, est-ce qu'il y a vraiment eu un changement de culture ? Eh bien, moi, j'ai l'impression que le chemin est encore long. J'ai l'impression que le chemin est encore long, et je vais en prendre deux indices. Mais de nouveau, il faut me contredire si je me trompe. Le premier indice, pardonnez-moi de prendre la Belgique comme mauvais exemple. Adélaïde Remich le connaît très bien, parce qu'Adélaïde a fait un excellent commentaire de cette affaire sur le bloc. 98-98, le Premier ministre belge me signale aimablement. Ce n'est pas ça que Adélaïde a commenté, c'est la suite. En 98, le Premier ministre me signale aimablement qu'il est obligé de me mettre sur la liste car j'étais la seule femme qui avait introduit une candidature. Il faut appliquer pour être sur la liste. J'étais la seule femme qui avait introduit une candidature, ce qui entre nous est très étonnant. Et puis il continue, mais de toute façon, cela ne mangera pas de pain. 2012, mon mandat se termine et la Belgique soumet alors une liste de 3 hommes. Elle soumet une liste de 3 hommes, écartant de manière arbitraire une femme aux compétences droits de l'homme absolument indiscutables et évidentes. Et la Belgique ne signale aucune circonstance exceptionnelle. Alors évidemment, il y a beaucoup d'arguments. Il y a beaucoup d'arguments. Après, une femme universitaire, c'est assez. Maintenant, on veut une femme juge. Ça, c'est... On veut un juge-juge, et la femme dont je parlais avait le malheur d'être universitaire. Mais il y a quand même d'autres arguments plus subtils qui n'ont pas été dits, mais qui étaient évidemment très présents. Nous avons déjà eu une femme depuis 98. On a déjà eu une femme depuis 14 ans, et dès lors, c'est un peu assez. Et oubliant évidemment les décennies antérieures où il n'y avait que des hommes. Et moi, j'ai un peu senti là exactement ce que vous, dans votre livre, vous analysez très bien. J'ai un peu eu l'impression que j'étais vraiment la token woman. J'étais vraiment la token woman, c'est-à-dire who doesn't threaten the coding of a job. Et the idea of the token, et je vous cite, is that the only spot exists for a marginalized category. Un seul spot, one spot exists. Et la présomption là derrière, c'est que les hommes sont les occupants naturels de ce type de position et que c'est assez d'avoir déjà élu une femme pendant 14 ans et maintenant qu'elle se tient calme. Second élément, second indice, depuis tout le temps où j'étais à la Cour, on a discuté sans arrêt de la réforme de la Cour. Dans tout ce débat sur la réforme de la Cour, qui a abouti à des protocoles, qui vont, certains d'entre eux, sans doute entrer en vigueur. Et là, peut-être que c'est de ma faute, qui sait. Mais jamais la question n'a été posée de savoir si dans la Convention, comme dans le traité de la Cour pénale internationale, on n'aurait pas dû indiquer la question des femmes. Alors peut-être que là, les femmes juges auraient dû monter quelque chose. On aurait dû, d'une certaine manière, exprimer une sorte d'activisme. Mais c'est vrai que c'est étonnant qu'il n'y ait aucune proposition d'amendement de la Convention, alors que les occasions n'ont pas manqué. Donc ça, c'est pour moi une question qui me pose problème. Alors maintenant, quels sont les arguments ? Quels sont les arguments qui, à mon avis, militent en faveur de renforcer la présence des femmes ? Donc moi, pardonnez-moi, mais c'est vraiment ça qui, pour moi, est essentiel. Les arguments qui militent pour assurer la présence des femmes, et à mon humble avis, ces arguments ne se fondent ni sur la représentativité, ni sur la différence, mais sur la diversité. Les juridictions ont besoin d'une diversité de juges. Et là, je me fonde et je suis parfaitement d'accord avec le récent ouvrage d'Erika Raclet, qui dit que la diversité... Raclet, je ne sais pas comment il faut prononcer, excusez-moi, tout est mauvais aujourd'hui dans ma voix. Raclet, ok ? Ah, ok, alors it doesn't matter, ok. Bien, alors, ok, I was just saying that I will quote you. Ah, good, ok. Donc, comme le dit justement Erika Raclet, la diversité judiciaire ne menace pas, mais enrichit le processus de décision. Et mutatis mutandis, c'est ce que la Cour répète inlassablement, la diversité doit être perçue non pas comme un danger, mais comme une richesse. Et ces arguments, à mon humble avis, se déploient dans trois directions essentielles. La présence des femmes dans les tribunaux internationaux reflète tout simplement la structure de la population. La population qu'elle est censée servir, qui est quand même la moitié de l'humanité. Bien sûr, on sait que les femmes requérantes devant la Cour sont très peu nombreuses, et ça c'est un réel problème, et il faudra en discuter d'autres fois. Donc pour moi, la présence équilibrée, la diversité de la Cour, la présence équilibrée des hommes et des femmes dans les juridictions nationales et internationales, c'est tout simplement une expression de la démocratie. Et je me demande d'ailleurs si cette présence ne pourrait pas contribuer à lutter contre les préjugés à l'égard des femmes dans la société. Le fait qu'il y a maintenant une présence, ou que l'on doit tendre vers cette présence équilibrée des hommes et des femmes, pourrait avoir cet effet de lutte contre les préjugés à l'égard des femmes dans la société. Et c'est là que je vois le rôle symbolique ou pédagogique de ce type de choses. Second argument qui pour moi est important, la seule question à se poser n'est pas ce qui justifie leur inclusion, mais ce qui justifie leur exclusion. Et c'est ça qui me pose problème. Et dès lors, le second argument pour moi, c'est l'argument de l'égalité et de la non-discrimination. La Cour n'arrête pas d'appliquer l'article 14 dans toute une série de situations, eh bien, elle devrait d'une certaine manière l'appliquer dans ses propres rangs. Et en poussant un peu plus loin, mais je reconnais que ça c'est un peu de la jurisprudence fiction, on pourrait se demander si concernant l'accès des femmes aux fonctions judiciaires, et notamment aux hautes fonctions judiciaires, il n'y a pas une forme de discrimination indirecte. Il n'y a pas une forme de discrimination indirecte. Pour moi, la question en définitive n'est pas de savoir quand on aura mathématiquement l'équilibre des sexes au sein d'une juridiction, mais quand véritablement aurons-nous le sentiment que les femmes disposent des mêmes possibilités en ce qui concerne leur activité professionnelle. Et troisième argument pour moi, mais tout ça devrait être beaucoup plus développé, c'est qu'un siège composé de personnes aux identités, aux expériences différentes, pour moi, est plus susceptible de rapprocher la justice de tous. Donc ça, c'est un élément qui est moins important. Il faut que, les justiciables se reconnaissent d'une certaine manière dans leurs juges. Et donc... Voilà, ça c'est pour moi le troisième argument. Alors vous allez dire, pourquoi je ne parle pas de la confiance ? Eh bien non. Moi, ce thème de la confiance, pour finir, ne m'intéresse plus. Quand j'ai entendu hier que le procureur Deloitte, moi je ne connaissais pas cette affaire, et c'est vous qui avez déniché ce texte, il est génial dans son horreur, mais quand le procureur général Deloitte, avec le même argument de la confiance, dit qu'il n'est pas possible de faire confiance aux femmes, pour moi j'ai envie de dire que ce concept est discrédité. Et puis, on n'est pas là pour que les justiciables ont confiance en nous. Ce qu'ils demandent, c'est la justice. Et ça, c'est tout autre chose. Donc, le thème de la confiance, eh bien, voilà, je l'écarte. Alors, un petit mot maintenant sur le second... Oh, je crois que j'ai encore une petite minute. Le second sujet de votre excellente problématique, c'est la question de la représentativité et de la légitimité. OK. Mais alors, vous dites à partir de là, et ça m'a jeté dans des vraiment dans beaucoup de perplexité. Vous dites, si l'on admet que la diversité sexuelle constitue une condition de la légitimité démocratique, bon, vous savez ce que j'en pense, vous soulignez à juste titre le risque d'abandon ou d'effritement partiel du mythe de l'impartialité. Et puis, dans ce même document, vous dites, vous allez plus loin, dans quelle mesure la fiction du juge objectif et neutre est-elle nécessaire au bon fonctionnement de la justice? Et là, j'ai envie de vous répondre non. J'ai envie de vous répondre non. Et en tout cas, ma réponse est à cet égard assez nette. Bien sûr, un juge objectif existe et doit exister. Même si on sait tous que le propre de l'argument subjectif est évidemment de se dissimuler, de se cacher sous les apparences du droit. Je voudrais m'expliquer un petit peu plus loin là-dessus, parce que comme vous indiquez très justement qu'un des enjeux de toute cette conférence, c'est aussi de réfléchir sur l'évolution de la fonction de juger, auquel tout le monde contribue, et notamment les femmes juges. Alors, moi je pense que s'agissant de cette question de l'impartialité et de la neutralité, c'est pas ça la question. Évidemment, ça nous entraîne très loin parce que ça pose la question des déterminations conscientes ou inconscientes des juges dans le délibéré. Et évidemment, cette question me touche un peu parce que lorsqu'il s'agit de droits de l'homme, il y a toujours dans ce domaine, ça on le voit, on le constate, l'affleurement de questions morales, éthiques, sociales, politiques, qui sont des questions extrêmement difficiles. Et donc se pose immédiatement la question de l'impartialité personnelle. Et moi, je pense qu'aucun juge ne peut être totalement impartial. Je crois qu'on est tous tributaires de notre histoire, de nos opinions, de nos conceptions, de nos idées philosophiques, éthiques, politiques. En revanche, ce que le juge doit faire, c'est prendre une juste distance par rapport à ça, une distance par rapport à lui-même. Donc, l'impartialité n'est pas du tout pour moi une forme de neutralité politique et sociale, ça n'existe pas. Et en plus, je pense que c'est extrêmement dangereux, parce qu'affirmer qu'on a une espèce de neutralité politique et sociale, c'est la bonne manière de cacher des opinions inavouables. Donc, je ne le pense pas du tout, je ne partage pas du tout, par exemple, ces affirmations que j'ai lues quelque part dans toute cette merveilleuse littérature, que le Chief Justice Roberts à la US Supreme Court et le juge Clarence Thomas, ils disent que les juges, et je quote, « should be like neutral baseball umpires ». Non, on n'est pas du tout des arbitres neutres. L'impartialité, pour moi, consiste non pas à ne pas avoir d'opinion, mais être capable de donner pertinence aux faits et aux arguments qui sont présentés devant nous. Alors, je généralise un peu le propos par rapport à l'argument que la présence des femmes pourrait effectivement mettre en question la question du mythe de l'impartialité du juge. Je ne sais pas si je l'ai déjà cité, si oui, pardonnez-moi, donc je me répète, mais il y a un grand article de Dworkin que j'aime beaucoup, et il demande est-ce que le nouveau rôle des juges, est-ce que leur conviction personnelle doit compter? Et alors, il montre effectivement l'accroissement du rôle des juridictions internationales et notamment la Cour européenne des droits de l'homme. Et il montre ce qu'on fait l'expérience tous les jours. Est-ce que la question de savoir, par exemple, si la liberté d'expression protège le discours de haine ou un discours qui persécute les minorités? Il est évident que ce type de question requiert, dans une société démocratique, c'est ce que la Cour doit faire, une réflexion sur, j'ai envie de dire, des questions les plus fondamentales de la moralité politique. Est-ce que l'article 3, l'interdit de la torture, des traitements inhumains et dégradants, on est obligé de réfléchir sur ce qui n'est pas tolérable dans une société démocratique? Et ces questions sont souvent des questions extrêmement controversées en Europe. Et je ne vais pas revenir avec les questions les plus facilement controversées, comme l'adoption par les homosexuels ou l'accouchement sous X. Donc, moi, je crois que dans ce contexte-là, et c'est en réponse à votre objection par rapport aux femmes, je crois qu'on doit prendre parti. On doit prendre parti dans une situation d'incertitude. Mais ce qui est alors l'élément central et qui doit traduire la juste distance, c'est que l'on doit se justifier. On doit se justifier dans le principe et dans l'application. Donc la motivation est là pour moi le point central pour effectivement que l'on puisse montrer, dire, faire et montrer cette juste distance que l'on doit prendre par rapport à ses opinions et que l'on est capable de donner pertinence à des faits, à des arguments qui ont été développés devant vous. Donc pour moi, la motivation est absolument centrale. Les juges ne sont ni des rois, ni des reines, et encore moins des papes. Les juges doivent se justifier, doivent se motiver, Et lorsque on rend claires nos convictions personnelles, je veux dire, on les rend claires et on les exprime, mais en même temps, on s'accroche à la jurisprudence qui a été établie avant vous. On n'est pas là tout d'un coup une espèce d'électron libre, non. On s'inscrit dans une continuité et on doit assumer cette responsabilité. On doit à la fois prendre compte de ce qui a été décidé, le corps de principe qui a été construit et l'évolution de la jurisprudence. Alors, voilà sur cette question de l'impartialité qui pour moi est vraiment une question importante. Là-dessus, je vais être très rapide parce qu'il est plus que temps d'avancer. Vous posez aussi la question, le juge bouche de la loi. En matière de droits de l'homme, ça, cette idée est complètement disparue. Est complètement disparue, c'est cette vieille idée du XXe siècle, comme Adélaïde l'a bien exprimé hier, l'idée que le juge serait une machine à syllogisme, ou qu'on serait simplement, que les juges seraient simplement la courroie de transmission entre le législateur et un texte. En matière de droits fondamentaux, ce n'est plus possible de tenir cette position-là. C'est totalement impossible. Tout le monde sait bien que les droits fondamentaux, la vie, la torture, la vie privée, ce sont des droits qui ne prennent un sens que dans des contextes précis. Ce sont des droits éminemment abstraits, mais qui sont appliqués dans des contextes individuels, dans des contextes particuliers. Donc, cette idée de la contextualisation est absolument centrale dans le fonctionnement des juridictions qui sont appelées à se prononcer sur les droits fondamentaux, que ce soit la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour les cours constitutionnelles, qui la plupart, évidemment, ont le même type de questions. Donc, l'application de ces droits est toujours liée à un travail d'interprétation de la part des juges. Et les juges, là, ne sont certainement pas la bouche de la loi. Non, on travaille dans une situation éminemment contextualisée. Et la machine à syllogisme, qui évidemment permet aussi d'évacuer toute la question de prémices interprétatives cachées, puisque si on reste dans ce modèle de la courroie de transmission, de la bouche de la loi, de la machine à syllogisme, eh bien on n'a rien à expliquer et on peut effectivement cacher nos préférences interprétatives derrière une prétention d'objectivité qui, on le sait, n'existe pas. Donc en matière de droits fondamentaux, ce sens est toujours à construire lorsqu'on examine la proportionnalité entre les intérêts concurrents de l'un et de l'autre. Mais forcément, on ne peut pas être cette bouche de la loi et donc on doit assumer, et ça me ramène au point précédent, on doit assumer ces pratiques interprétatives. Alors un dernier petit mot, ça vous croyez que vous allez croire que je vais un peu me défouler là, mais non. Et le troisième petit point, ou le dernier mot avant de terminer, c'est « different voice, point d'interrogation ». Non, « different place », oui. Je dirais, pendant que j'exerçais mon mandat de juge à la Cour, j'avais souvent en tête, je ne le cache pas, les excellents travaux d'Eva Brems, ici en Belgique, et de Marie-Bénédicte d'Hambourg, qui vient de cette université, mais qui est maintenant à, je ne sais plus où, sur les lectures féministes des droits de l'homme. Alors évidemment, en dépit des nuances et des différences qui existent entre ces différents courants, elles montrent bien toutes les deux l'effet ou l'impact du féminisme en termes de ce que l'on pourrait appeler une méthodologie des droits de l'homme. Et j'avoue que cette méthodologie des droits de l'homme, moi j'ai personnellement quand même pu un peu la constater, ou faire en tout cas l'expérience de la pertinence de certains éléments. Évidemment, je déborde un peu sur la session de demain, ça je sais, mais j'avoue que la tentation était un peu grande. Alors je ne vais pas du tout soutenir ici que les femmes juges et à la Cour européenne des droits de l'homme jugent de manière radicalement différente, non. Et je partage alors vos analyses que dans votre ouvrage récent, qui dit qu'effectivement, les femmes ne jugent pas de manière différente. Mais ce que je pense quand même, c'est que parfois, et peut-être même souvent, je dirais, elles apportent autre chose parce qu'elles occupent une place différente. Et ça, c'est pour moi différent. Elles occupent une place différente. Et je vois par exemple que, et ça, je pars un peu de mon expérience, ou bien l'expérience des femmes juges avec lesquelles les relations étaient plus proches, parfois une approche plus contextualisée des droits de la Convention. Ça, c'est vrai. Une préférence parfois pour un point de vue interne complexe plutôt qu'un point de vue externe, souvent à mon sens simplifié et un peu abstrait. Une petite méfiance à l'endroit de la division publique et privée. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent senti et donc une tendance ou un désir d'une application horizontale de la Convention, notamment dans les questions privées, notamment dans les relations privées. L'idée aussi qu'il n'y a pas de watertight division entre les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux. Et parfois aussi une approche un peu plus collective. Ça, c'est une chose que de temps en temps, je voyais très bien que c'était un thème qui apparaissait et qui n'était pas du tout repris par les autres. Donc j'ai l'impression que non, pas du tout pour dire que c'est une différence, pour moi ça n'a pas de sens, mais la place que les femmes occupent peuvent apporter quelque chose dans la fonction de juger. En revanche, ce que je n'ai pas du tout constaté, c'est que les femmes avaient une perspective commune. Ça, je n'ai jamais constaté. Même dans les affaires sensibles comme le foulard, il y avait quand même 5 femmes dans cette composition de la Grande Chambre. Bon, à tort ou à raison, on n'en a pas discuté ensemble. Peut-être qu'on aurait dû le faire, je n'en sais rien, mais on ne l'a pas fait. Mais il y a parfois des exceptions dans l'affaire SH contre Autriche concernant l'interdiction en droit interne d'utiliser des ovules ou des spermes provenant de donneurs en vue d'une fécondation in vitro. Là, il s'est retrouvé par hasard que les 4 dissidents étaient 4 dissidentes. Mais je dirais que ce sont des exemples précis. Moi, je pense qu'il serait vraiment intéressant aujourd'hui, puisqu'il y a maintenant 17 femmes à la Cour, donc c'est quand même un fameux nombre, je trouve qu'il serait vraiment intéressant d'avoir une étude vraiment solide, scientifiquement fondée, sur des données empiriques, pour vraiment pouvoir analyser aujourd'hui, je dirais ces quelques dernières années, et puis demain, est-ce qu'il y a un impact, lequel, sur les jugements de la Cour. Alors, un second petit point, et c'est peut-être là que je ne voudrais pas donner l'impression de me défouler, il ne faut pas non plus tout à fait sous-estimer les difficultés rencontrées par les femmes juges à la Cour. On donne l'impression que tout ça est très simple, ça va de soi, c'est très bien, et c'est très bien. Donc, ne croyez pas du tout que je me plains, loin de là. Loin de là. Mais il ne faut quand même pas tout à fait sous-estimer cela. Il y a des préjugés, il y a des petites vexations, et qui sont quand même parfois des discriminations dont elles peuvent faire l'objet, et des choses que moi, j'avoue, je n'avais jamais connues à l'université, puisque je viens de l'université. Mais là, je l'ai quand même un peu senti, et même assez souvent. Par exemple, pendant les délibérations, ce n'est pas toujours si facile, non pas d'être écouté, bien sûr, on vous écoute, mais d'être entendu. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Et parfois, il arrive que ce que vous dites est complètement ignoré jusqu'au moment où un collègue masculin le reprend. J'avoue que ça, c'est un peu enrageant. Oh oui, j'ai fini, je m'en vais. 2 minutes encore, mais ce sera fini. Il arrive parfois... Oui, ça, c'est un point qui m'a quand même souvent fait un petit peu tiquer. Ou alors, il y a ces petites coquetteries de délibération. Et ça, c'est un peu l'expression du pouvoir ou bien la recherche des alliances. On se réfère les uns aux autres. Comme le disait si bien le collègue X, je suis tout à fait d'accord avec le collègue Y. Mais c'est très rare que les hommes se réfèrent à ce que les femmes ont dit, ou alors simplement lorsque c'est d'une telle banalité qu'il n'y a plus rien à en sortir. Autre chose, et ça, ça demanderait tout un travail, il y a comme ça toutes ces affirmations étranges que l'on voit. Et pour moi, c'est un petit florilège, j'ai ça quelque part et je devrais en faire quelque chose. Souvent, les hommes disent ceci, surtout en matière de droits de l'homme, ça joue. Mon cœur me dit que, mais ma raison m'oblige à aller dans l'autre sens. Alors ça, c'est des choses qui, moi, m'énervent au maximum. Comme si l'on pouvait dissocier l'un de l'autre, et on voit bien que dans ce type d'affirmation, il y a évidemment une connotation éminemment sexiste, il ne faut pas être affectif et émotionnel, et les femmes sont bien sûr affectives et émotionnelles. Là, ce que j'ai vu tout le temps, c'est que les hommes sont tout aussi affectifs, émotionnels que les femmes, mais sur d'autres sujets. Sur d'autres thèmes, et ils refusent de le reconnaître. Ce sont des fausses oppositions. Pour moi, ce sont de fausses oppositions. L'appel au sentiment, à la conviction, n'est pas du tout synonyme d'irrationalité. Pour moi, au contraire, c'est un moyen de réaliser la justice en comprenant la dimension humaine réelle des controverses juridiques. Le droit est aussi sentiment, ça j'en suis intimement convaincue. Le droit est aussi sentiment, c'est un peu une phrase là, mais à côté du logos, eh bien, il y a place pour l'éthos, mais aussi un peu pour le pathos, disons-le. Et donc, les hommes comme les femmes. Et donc, cette dissociation, ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas supporter. Dernier mot, parce que dans les documents, il y avait... Est-ce que les femmes peuvent apporter quelque chose à la jurisprudence? Et dans les documents que j'ai lus, ce questionnement a été mené au Canada, au Royaume-Uni et en Australie, avec des projets de réécriture de jugement dans une perspective féministe. Très bien. Mais je voudrais vous signaler que, ici en Belgique, sous la direction que je trouve magnifique de Eva Brehm, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a un groupe de chercheurs, peut-être qu'il y en a une qui est ici dans la salle, je l'espère, il y a un groupe de chercheurs qui s'est attaqué à cette montagne magique que constitue la jurisprudence de la Cour des droits de l'homme. Et un peu dans le même esprit, ils ont choisi un angle de vue important, sensible, mais trop souvent négligé, et ils ont pris la situation des groupes non dominants. Les enfants, la dimension de genre, les minorités religieuses, sexuelles, culturelles, le handicap. Et le point de départ, et c'est pour ça que je trouve ça passionnant, bien sûr, toutes ces questions des minorités sont au cœur de nos sociétés, nous le savons tous. Mais est-ce que l'expérience et la perspective de ces groupes sont visibles, lisibles dans la jurisprudence de la Cour? Et alors, un peu comme vous l'avez fait, elles ont eu cette impertinence, parce qu'à la Cour, certains ont trouvé ça profondément impertinent, ce que je ne trouve pas du tout. Elles ont eu l'impertinence de suivre cette méthode, de se mettre à la place de la Cour et de réécrire nos jugements ou nos arrêts, cette sacrée jurisprudence. Elles ont eu l'audace de réécrire ces arrêts dans cette perspective de la diversité. Et ça, je trouve, c'est quand même un ouvrage tout récent qui vient de sortir à Cambridge University Press en 2013 et qui est exactement la même chose, mais dans un angle plus large. Voilà, je ne vais pas conclure parce que c'est impossible de conclure une chose pareille. Pardonnez-moi d'avoir été un peu longue. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention et excusez-moi pour ma voix.
Bien, eh bien, nous allons terminer ici la première partie de la session de la matinée.